Nous lisons d'abord dans l'Évangile ce récit. Ce récit que tous, sans doute, connaissent, qui est rapporté à la fois par Matthieu, par Marc et par Luc, dont nous avons choisi celui de Marc, et qui est ce moment où Jésus rencontre un homme de réputation très riche. Comme il se mettait en chemin, un homme accourut, se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père, ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, « Il te manque une seule chose, va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de bien. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 7, nous lisons ce passage de l'apôtre Paul. La tristesse, selon Dieu, produit un changement radical qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde, elle, produit la mort. Et puis encore, du même apôtre, dans la lettre aux Philippiens, nous écoutons ces quelques accents à partir au chapitre 3, à partir du verset 7. Tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Oui, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme des déchets, afin de gagner le Christ, d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous maintenant dans cette vérité. Nous allons chanter le psaume 136, les premières, deuxième, sixième et dixième strophes. Nous chantons bien entendu dans le psautier français. Thank you. Seigneur, tu viens maintenant t'adresser directement à nous dans ta parole. Par la bouche même de ton Fils, qu'elle devienne un partage, comme un repas, comme une communion qui nous fasse grandir dans la foi, comme une nourriture qui redonne de la force pour persévérer dans le quotidien souvent trop vide de nos journées, vide d'une parole que nous oublions. Mais chaque dimanche, et aujourd'hui c'est une fête à laquelle tu nous convies, c'est une espérance qui n'a pas de fin. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, pour que nous recevions maintenant l'intelligence de la foi. C'était depuis la Galilée et jusqu'en Judée. C'était depuis les bords du Jourdain jusqu'à Jérusalem. C'était à travers la nature. Ce pouvait être sur des collines, sur des pentes de montagnes ou même en bordure de chemin que ce qui devenait l'Évangile était proclamé, était entendu pour la première fois. C'était des paroles qui s'élaboraient, qui s'enracinaient dans des mémoires, les mémoires de tous ces gens qui se rassemblaient en foule, une parole qui transformait des vies, qui soulevait des espérances parfois composites. Un homme les prononçait, un homme les orchestrait en une extraordinaire symphonie, Jésus de Nazareth. C'était celui-là que voulait rencontrer cet homme que l'on savait très riche, rapportent les textes, dont on a dit une fois, mais c'était peut-être la vraie, qu'il était aussi très jeune. Matthieu, Marc et Luc en rapportent l'histoire avec des variantes, ce qui atteste bien qu'on a affaire à quelqu'un de réel, qui a été vu par des témoins, qui ont retenu tel ou tel aspect, parole, de cette rencontre. Mais l'objet de sa recherche, c'est cette question: comment acquérir, plus exactement, hériter la vie éternelle. Alors il a couru la campagne pour rattraper cet homme de Nazareth, pour se jeter à ses genoux. Cet homme d'affaires, car il est obligatoirement un homme d'affaires et un homme d'argent, a dû penser que ce Jésus qui fait courir les foules, dont la réputation va grandissante, est l'homme de la situation, parce qu'il est à la pointe de ce qu'il y a de mieux en matière de foi. C'est un homme aux idées avancées quant à la loi, quant à la manière de pratiquer la loi. Alors, il lui donne sa confiance. Il va lui dire son inquiétude. Il va lui poser cette question qui relève de ce qui est fondamental, le bien ou encore le bon. Et par voie de conséquence, sera soulevée la question de l'agir de l'homme. Et bien entendu, ce qui touche au domaine de la loi, de cette volonté de Dieu qui fait vivre si on l'observe, qui fait mourir si on la rejette, source de vie pour qui obéit, de mort pour celui qui l'oublie. Cette loi qui de plus est le surplomb de cette alliance que Dieu a fait avec son peuple. L'Évangile ne fait pas de préambule, on entre tout de suite dans le sujet. L'homme se jette aux pieds de Jésus et lui dit: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir cette vie éternelle ?» Ça, c'est Matthieu, c'est Marc et c'est Luc, qui donne d'emblée cette salutation. Mais Matthieu, et c'est là que les variantes sont extrêmement intéressantes, travaille la question davantage du faire de l'homme, de sa manière d'agir. Il s'arrête à des questions de morale, d'éthique, bien plus. Alors que fait-il dire à l'homme: « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Faisant glisser ce bon, ce bien de la personne de Jésus à l'agir, au faire de l'homme et à son faire à lui, cet homme d'action, cet homme de réussite, cet homme d'argent. De toute façon, la discussion dont nous n'avons pas bien entendu tout l'ensemble a soulevé cette question de la manière de faire le bien. Mais de toute façon, qu'on ait une version ou qu'on en ait une autre, rien n'est changé, parce que la réponse de Jésus, dans les deux cas, est strictement la même. La réponse de Jésus, c'est celle-ci: pourquoi m'interroger sur le bon? Ce qui est bon, ou me dire bon, un seul est bon, seul Dieu. Cette réponse sans nuance aucune, est lourde de sens. Parce que bibliquement, le bien, le bon, la bonté, n'existe pas en soi, n'existe pas en elle-même. Elle n'est pas hors de Dieu. Pour être un attribut, même un attribut principal de Dieu, Dieu est l'essence du bien. Le bien est son être. De là cette déclaration de Jésus qui immédiatement, d'entrée de jeu, a redressé l'erreur. Un seul est bon. Alors, on va bien entendu répondre, mais l'homme peut être bon. Jésus-même, il en parle. Mais c'est l'homme qui ne l'est pas de lui. C'est l'homme qui sort, comme il le dit, de ce bon trésor que Dieu a déposé en lui de bonnes choses. Ou c'est encore l'apôtre Paul qui va dire, qui va parler de ses actes bons, de ses œuvres justes, celles que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les fasse. Ce qui fait partir, ce qui met en miettes toute espèce de mérite. C'est impossible, parce que le bien ne peut pas se faire en bribes. Le bien, c'est l'illimitation. Le bien, c'est l'être même de Dieu. Alors, d'entrée de jeu, le riche a perdu des points. Mais Jésus ne va pas interrompre pour autant le dialogue. Alors, il reprend et poursuit. Tu connais les commandements de Dieu. Et alors de les énumérer. Car maintenant qu'il est posé, qu'il est impossible d'être bon, de faire le bien, il reste cette base absolue, c'est de ne pas faire le mal. De là tous ces commandements qui sont des interdits, de ne pas tuer, voler, tromper, tout ce qu'on peut imaginer, ce qui permet de savoir où l'on va. Et alors d'être reçu par Dieu. C'est la conduite du juste. Mais oui, répond l'homme, c'était pas difficile. Il n'y avait qu'à obéir. Depuis mon plus jeune âge, j'y suis habitué. Jésus ne va-t-il lui apporter donc rien de nouveau? Et que devient cet immense espoir qu'il avait mis en lui? Le reconnaît-il d'après tout ce qu'on a pu lui dire? Il avait tout misé, mais l'entretien piétine. Tout ce que tu m'as dit, je le sais, pense-t-il. Qu'est-ce que tu m'apportes de nouveau? Ce que j'attendais, ce pourquoi je me suis dérangée. Il avait compté sur un conseil nouveau qu'il aurait pu mettre en œuvre, quelque chose d'inattendu, mais il n'y en a pas, et il est amer. Alors l'Évangile met un terme à cette situation. C'est une pause silencieuse qui n'est pas un point final. C'est ce regard que Jésus a posé sur lui. Jésus le regarda. Il est très rare ce regard de Jésus, non pas celui dont il pouvait considérer telle ou telle chose de ce monde, mais ce regard sur un homme, hormis peut-être ce long regard qu'il posera plus tard, aussitôt que Pierre l'aura trahi, au moment où le coq chantera, on en chercherait vainement de ses regards, de celui qu'il pose sur cet homme. Alors tombe cette déclaration qui fait de ce texte autre chose qu'un débat d'idées, un débat abstrait sur ce qui est bon, mais qui en fait un évangile. Jésus l'aima. Le regard de Jésus posé sur lui a duré un instant. Son amour ne lui sera jamais plus retiré. Car il ne s'agit pas de sentiments, même si Jésus a pu éprouver des émois, a pu avoir des larmes. Ici, c'est le Sauveur qui est à ses côtés. Celui que l'homme ne soupçonne pas, celui qui connaît la douleur, celle d'un homme que sa vertu, que son obéissance à la loi n'a pas comblé. Cette loi qui ne peut pas le sauver. Cet homme qui cherche autre chose que de prolonger ses jours sur la terre que Dieu lui donne, comme dit l'Écriture, en faisant de sa descendance son unique espoir. Cette promesse qui a comblé les générations d'Israël depuis Abraham. Jésus sait toutes ces choses. Il ne va pas lui faire un exposé doctrinal de tout ce qui va suivre, de toute cette grâce qui va déborder. Il sait toutes ces choses qui se passent en lui. Alors, sans parole, il devient pour lui ce Samaritain qui s'arrête auprès du blessé du bord de la route. Ici, c'est un blessé de la vie, un blessé de la réussite et de l'argent, un blessé du bien-être qui le laisse vide, qui ne le comble pas. Va-t-il survivre, ce blessé ? Guérira-t-il ? Peut-être que ses blessures sont trop grandes, son mal trop profond. Mais Jésus essaiera le remède. Il n'y a qu'un remède. Il est risqué. C'est la dernière chance. Ce remède, c'est cette chose dont Jésus a plusieurs reprises à parler, dont il ne sait parler autrement que de dire d'elle qu'elle est la seule chose nécessaire et la seule qui peut manquer. Celle justement qui ne fait pas partie des ressources humaines. Que cherche-t-il cet homme ? Une fortune de vie sans borne qui lui serait apportée, donnée comme un héritage, comme un cadeau de reconnaissance, parce qu'il aurait été bon, parce qu'il aurait fait quelque chose de bon. Jésus a lui révélé que c'est lui, cette richesse. Ce dont tu te crois pauvre est à côté de toi. Dans son silence, dans son regard, Jésus lui disait, ces paroles qu'on reconnaît pour être les mêmes termes de ce célèbre dialogue qu'il avait eu un jour avec une certaine Samaritaine. Il lui disait, si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui est celui qui en ce moment te parle, si tu savais, tu vendrais tout. Tu vendrais tous tes biens et tu me suivrais. Tu attendrais chaque jour un pain qui ne serait donné, qui ne te serait donné que jour après jour. Tu apprendrais à vivre de la seule fidélité de Dieu. C'est peut-être de ça dont tu voulais parler quand tu disais « Que puis-je faire de bon ?» Tu parlais maladroitement parce que tu ne savais pas que c'était le don de Dieu, que tu n'avais rien à faire. Tu ne savais pas que tes questions étaient mal posées. Alors arrive ce coup terrible, tout vendre pour commencer sa vie, pour la commencer, cette vie éternelle que tu voudrais recevoir. C'est toi seul qui peux la recevoir. Alors ce conseil, celui qu'il avait tellement attendu, Jésus lui donne. Il lui donne en répondant à sa question initiale, mais en même temps, cette réponse le foudroie. S'il n'avait eu rien à vendre, s'il n'avait eu rien à perdre, il aurait tenté. Il aurait été heureux comme ces pauvres qui sont dits heureux, non pas parce qu'ils n'ont rien à manger ou qu'ils ne sont pas logés, mais parce qu'ils ont, ils sont dans cette situation qui est nue, ouverte, vide, et où on peut voir la bonté du Seigneur. Alors, s'ils n'avaient rien eu à perdre, il aurait sans doute tenté le pari, ce pari qui, des siècles plus tard, sera celui de Pascal. Autant tenter s'il n'y a rien à perdre. Tout peut être gagné. Il ignore la grâce. Il ignore qu'elle peut coûter beaucoup. Mais voilà, il est riche. Et peut-être qu'un instant, un seul instant, il a eu envie d'être pauvre. Il a eu envie de mendier les biens qu'il ne pouvait pas avoir. Et qu'au fond, il voulait voler sans les payer. Alors, en entendant la parole de Jésus, il s'est assombri. Et il est devenu triste. Plus tard, Paul écrira un jour aux chrétiens de l'église de Corinthe qu'il avait fondée, dans une circonstance qui n'importe pas en l'occurrence. Il leur avait écrit « Vous avez été attristés selon Dieu. Vous avez été attristés de cette tristesse qui produit un changement radical. Cette tristesse qui mène au salut et qu'on ne rejette pas. Cette tristesse, elle peut devenir les larmes de la joie. La puissance de l'Évangile, c'est que là où il rentre, là où il interroge, là où il inquiète et bouleverse et paraît détruire, il prépare le sol, il retourne la terre pour que la semence qui s'y dépose porte un jour un fruit au centuple. Amen.